Je veux sortir là. Allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes. Allez-y les.
J'adore ça. Moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez chez vous.
Je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête. Allez, touchez ferme, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette.
Oui,
allez-y quoi.
Sortez. Vous voulez sortir?
Mon chien bleu,
c'est le
bateau.
Sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortir tous avec nous.
Sors.
Salut, salut, ça y est, il est 16h, bienvenue dans l'émission Sortez. Vous écoutez Radio Campus Tour sur le 99.5 FM et c'est vos deux services civiques préférés. Salut Bastien, comment ça va?
Salut Juliette, comment ça va en ce jeudi?
Eh bien ça va, c'est bientôt le week-end, demain, écoute, là, voilà, hein. On est content. La dernière émission, c'était hier, nous avons reçu Virginie Portbeuf de l'association Les Trois Casquettes. Voilà, un projet de théâtre. D'ailleurs, le podcast est en ligne et je vous invite à aller l'écouter ou le réécouter. Et voilà, puis aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Alors, il ne s'agit pas d'un on papote.
Comme vous pouvez l'entendre, il n'y a personne avec nous dans les studios.
Il n'y a personne, mais ce n'est pas un on papote. Ça va être une diffusion de chroniques des étudiants de la fac de droit de Tours. Voilà, Bastien, est-ce que...
Parce que ce sera c'est une émission enregistrée, on vous l'annonce, on vous fait le... On coupe un peu le mystère, parce qu'on vous l'a plu, comme vous l'avez dit, on est actuellement au Festival de musicologie, en reporter, Festival Unisson. Donc on vous a préparé cette émission-là pour l'enregistrer aujourd'hui à 16h, avec les petites chroniques du coup, des étudiants en droit, effectivement. Donc on va pouvoir vous mettre ça et puis entrecouper de musique et vous aurez le droit à l'agenda du week-end à la fin. C'est une émission plus courte que d'habitude mais avec les chroniques très très cool qui ont été faites par les étudiants. C'est toujours important de d'avoir ça et puis on va vous présenter de la musique. Donc on va pouvoir commencer avec une première chronique. C'est sur quel sujet, Juliette?
Alors c'est sur le logement mais les étudiants vont nous en dire plus du coup.
C'est parti.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'émission Sortez de Radio Campus. Nous sommes 4 étudiants du Master 2 Justice, Procès et Procédure, Parcours Conseil Contentieux. Je m'appelle Arthur et je vais vous présenter mes acolytes, Jérémy.
Bonjour.
Sinatou.
Salut.
Et Camille.
Bonjour. Vous vous êtes déjà posé des questions sur le logement, comme par exemple, quelle est la différence entre une caution et un dépôt de garantie? Vous vous êtes déjà demandé si vous pouviez quitter votre logement avant la date de fin de votre contrat de bail? Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, on abordera toutes ces questions. On parlera de vos droits et obligations en tant que locataire, des obligations de votre propriétaire, des règles de sous-location, ou encore de ce que vous pouvez faire en cas de litige avec votre bailleur. On le fera de manière simple et claire pour que tout soit bien compris. Avant de commencer, je pense que c'est important de préciser à nos auditrices et auditeurs que lorsqu'on parle de bailleur dans un contrat de location d'un bien, on entend par là le propriétaire. Maintenant que la précision a été faite, je laisse la parole à Arthur et Jérémy qui vont nous éclairer sur la distinction entre la caution et le dépôt de garantie.
Effectivement, les termes de caution et de dépôt de garantie sont souvent source de confusion. Parfois, on entend dire que le bailleur n'a pas restitué la caution ou que la caution est de tel ou de tel montant. Peut-être avez-vous donc déjà entendu ces termes sans vraiment saisir la nuance entre les deux ou même sans savoir qu'il existe une différence entre les deux. Sachez que lorsque l'on parle de la caution, on parle en réalité de la personne qui se porte garante du paiement du loyer et des charges en cas de défaillance du locataire. En général, il s'agit d'une personne proche, comme les parents, les grands-parents ou même des amis. Mais pour les étudiants de moins de 30 ans comme vous, il existe également la possibilité de bénéficier de la garantie visale par Action Logement, à condition d'en faire la demande avant la signature du bail.
S'agissant du dépôt de garantie, il correspond quant à lui à la somme d'argent que le locataire verse au bailleur à la signature du bail. Cette somme est destinée à être conservée par le bailleur jusqu'à la fin de votre contrat de location. Et comme pour la caution, Action Logement peut aussi aider à financer le dépôt de garantie si le bail a été signé depuis moins de 3 mois.
Maintenant que la distinction a été expliquée, vous n'avez plus d'excuses pour confondre les deux mots. Dire que le bailleur n'a pas rendu la caution, ça ne veut donc rien dire. Dans ce cas, il faut dire que le bailleur n'a pas rendu le dépôt de garantie. D'ailleurs, j'ai vu que certains se posaient des questions sur les conditions de restitution du dépôt de garantie. Je laisse Camille nous expliquer ça.
Eh bien, la première chose à vérifier, c'est que l'état des lieux de sortie est identique à l'état des lieux d'entrée. Si c'est le cas, le bailleur doit vous restituer la totalité du dépôt de garantie dans un délai d'un mois. En revanche, s'il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire que des dommages ont été constatés, le bailleur aura un délai de 2 mois pour vous le rendre.
Et petite précision importante, si votre propriétaire ne vous rend pas le dépôt de garantie à temps, vous avez droit à une majoration de 10% sur le loyer hors charge par mois de retard. Je pense que j'en ai perdu certains en cours de route avec cette phrase, donc je vais vous donner un exemple simple pour expliquer mes propos. Imaginons que vous avez un loyer hors charge de 100 euros, que le dépôt de garantie soit de 100 euros, et que le bailleur vous rende le dépôt de garantie avec 3 mois de retard. On va ajouter au montant du dépôt de garantie 3 fois 10% du loyer hors charge, soit 30 euros, car il y a eu 3 mois de retard. Donc on ajoute aux 100 euros du dépôt de garantie 30 euros de pénalité. Le bailleur vous devra donc 130 euros.
Oui, mais attention, il ne faut pas confondre le délai de la restitution avec le montant restitué. Certes, le bailleur a 1 ou 2 mois pour vous rendre le dépôt de garantie, mais si des dommages sont constatés dans le logement ou si vous avez manqué à certaines de vos obligations, par exemple si vous n'avez pas payé certains loyers, il pourra retenir une partie, voire la totalité du dépôt de garantie, à condition de vous fournir des justificatifs, comme des factures ou encore des devis. Par exemple, si vous avez cassé 2 verres fournis dans un logement meublé, le propriétaire pourra vous déduire du montant du dépôt de garantie le prix de ces 2 verres, à condition de vous présenter la facture. De la même manière, si votre loyer est de 400 euros et que le dépôt de garantie était de 800, mais que vous n'avez pas payé un loyer, alors le propriétaire peut utiliser le montant du dépôt de garantie pour se payer et ne vous restituera plus que 400 euros.
Jusque-là, on ne parle que des personnes qui louent un logement toutes seules. Il ne faudrait pas laisser de côté celles qui sont en colocation. Si vous êtes dans cette situation, sachez que si l'un de vos colocataires décide de quitter la coloc, il ne peut pas demander au propriétaire de lui rendre sa part du dépôt de garantie. Vous devez vous mettre d'accord entre vous à ce sujet, parce que le dépôt de garantie ne sera restitué que lorsque tous les colocataires auront quitté le logement.
Exactement, Sinatou. Et dans une colocation, vous et vos colocataires, ainsi que vos garants, peuvent être tenus solidairement responsables du paiement du loyer, c'est-à-dire qu'en cas d'impayé, le propriétaire peut contacter l'un d'entre vous pour obtenir le paiement. Dans ce cas, celui qui aura tout payé pourra demander remboursement aux autres. Par exemple, Marc, Pierre et Jean sont colocataires. Chacun est tenu de sa part du loyer par principe, mais en cas d'impayé, le propriétaire peut demander à Marc de payer la part du loyer de Pierre et Jean. Dans ce cas, Marc pourra demander à Jean et Pierre de lui rembourser leur part.
Vous vous demandez sûrement comment mettre fin à cette solidarité. Eh bien, quand un colocataire donne son préavis, il quitte cette solidarité au moment où un nouveau colocataire le remplace. Et si personne ne le remplace, la solidarité va se terminer 6 mois après la fin du préavis. En parlant de préavis, Arthur, tu pourrais nous dire comment et quand le poser ?
Effectivement. Peut-être que certains désirent quitter leur logement, notamment à l'approche de la période estivale, après avoir terminé leur examen. Le délai va dépendre du logement que vous occupez. Si c'est un logement non meublé, le délai de préavis est de 3 mois. Et s'il s'agit d'un logement meublé, le délai est 1 mois. Comment poser concrètement le préavis ? C'est relativement simple. Vous pouvez soit adresser au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception, soit lui remettre en main propre un document contre récépissé indiquant l'intention de quitter le logement. Mais attention, c'est à compter de la réception de ce courrier que le délai de préavis commencera à courir. Et petite précision utile, vous serez tenu de payer le loyer jusqu'au terme du préavis, même si vous quittez le logement avant.
Le préavis vous permet donc de mettre fin au contrat de bail, mais votre propriétaire a lui aussi la possibilité d'y mettre fin en vous donnant congé. Il peut le faire seulement s'il a besoin de reprendre le logement pour lui-même ou pour un proche, s'il souhaite vendre le bien ou s'il a un motif légitime et sérieux. Ce motif légitime et sérieux peut être par exemple des retards de paiement répétés de votre part. Le congé du bailleur doit être donné selon les mêmes modalités que celles prévues pour vous, locataire. La différence ici est que le délai de préavis sera de 6 mois pour un logement non meublé et de 3 mois pour un logement meublé, et ce, avant la date d'échéance du bail.
Vous avez des rats dans votre immeuble, votre appartement est humide ou vous avez des traces de moisissures sur les murs. Sachez que cette situation n'est pas normale. En tant que locataire, vous avez droit à un logement décent. Et pour être décent, votre logement doit répondre à 5 critères essentiels. Il doit avoir une surface minimale, il doit garantir votre sécurité et votre santé en ne présentant aucun risque, il ne doit pas abriter d'animaux nuisibles ou de parasites, il doit avoir une performance énergétique satisfaisante, et enfin, il doit mettre à votre disposition certains équipements. Si ces conditions ne sont pas réunies, ça veut dire que votre bailleur ne respecte pas son obligation de mettre à votre disposition un logement décent.
Effectivement, comme dans tout contrat, chaque partie a des obligations à respecter et celle de délivrer au locataire un logement décent en fait partie. Le bailleur doit aussi maintenir le logement en bon état. Cela signifie qu'il doit effectuer toutes les réparations nécessaires pour assurer son bon état et son entretien normal. De votre côté, vous êtes tenu de prendre en charge l'entretien courant du logement et les petites réparations comme graisser les charnières de portes, remplacer des ampoules ou encore les joints de canalisation. Bien entendu, vous devez également assumer les frais qui vont être occasionnés par d'éventuelles dégradations que vous pourriez causer.
En plus de toutes ces obligations, le bailleur doit aussi vous garantir une jouissance paisible du logement. Autrement dit, il ne doit pas, par exemple, vous perturber en vous rendant des visites inopportunes ou injustifiées.
Merci Sinatou et Camille pour ces informations, mais il faut quand même préciser aux auditeurs que même si leurs propriétaires ne respectent pas ces obligations, ils ne peuvent pas suspendre le versement de leur loyer comme ça. En effet, le paiement des loyers est l'une de vos principales obligations en tant que locataire, donc seule une autorisation du juge pourrait vous permettre d'arrêter les paiements. Autrement, vous vous exposerez à des sanctions.
Pour rester dans la thématique du loyer, il faut peut-être indiquer que le bailleur peut réviser le loyer une fois par an, si une clause du bail le prévoit. Donc un conseil, lisez bien votre bail. Cette révision est limitée à la variation de l'indice de référence des loyers, dit IRL, et ne peut pas être appliquée aux logements classés énergétiquement F ou G. Pour connaître la classe énergétique de votre logement, vous devez consulter le diagnostic de performance énergétique que vous a été remis lors de la signature du bail. Mais attention, car même en l'absence de clause, le bailleur peut augmenter le loyer s'il a effectué des travaux d'amélioration du bien. Dans ce cas, il faudra votre accord.
Autre question qui nous a été posée, celle de savoir si l'on peut faire des modifications dans le logement qu'on loue. Sachez que vous ne pouvez pas modifier les locaux et les équipements loués sans avoir obtenu l'accord écrit du propriétaire. Si vous le faites sans cet accord, le propriétaire peut exiger, à votre départ, que vous remettiez les lieux dans leur état d'origine, sauf s'il décide de conserver les modifications que vous avez réalisées.
Si vous souhaitez sous-louer votre appartement, il vous faudra obtenir un accord écrit de votre propriétaire. Si cet accord est donné, vous devrez transmettre au sous-locataire cet accord écrit du bailleur ainsi qu'une copie du bail en cours. Il est important de noter que le montant du loyer au mètre carré payé par le sous-locataire ne peut en aucun cas dépasser celui que vous payez en tant que locataire principal.
Pour conclure cette thématique sur le logement, on vous précise qu'en cas de litige, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation qui aide gratuitement les bailleurs et les locataires à trouver une solution amiable à leur litige.
Et c'est la fin de cette première chronique. Bastien, je t'invite à faire une première pause musicale. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ?
Alors, comme première pause musicale, qu'est-ce que je vais avoir en stock ? Ça va être... écoutez, on va se mettre un petit Jeanne et les autres. On va la recevoir mercredi prochain. On va s'écouter son titre « Cœur ouvert » tout de suite dans Sortez. Et puis, on va enchaîner avec l'autre chronique des étudiants juste après.
Il a repris l'amour qu'il m'avait donné, car ce que je lui offrais n'avait pas satisfait son appétit d'homme. C'est mon corps qu'il voulait, faisait vibrer mon faune pour me déshabiller. J'ai dormi 100 ans après qu'il m'ait piqué, et quand je me suis réveillée, la nuit était déjà tombée. Pourtant les rues brillaient et la city criait, ça résonnait, sirène, pétard, haine, vacarme, couleur, noire, colère. Et malgré le sommeil, mon mal n'est pas passé, les larmes sur mes joues ont continué à couler. Je sais plus pourquoi je t'aime, c'est mes sentiments qui se mélangent. Et petit à petit, je sens mon cœur qui s'apaise. Incohérence me fascine, ta page tumulte, fatigue et s'accumule. Cramine, poubelle, brûler toutes les lettres. Beaucoup moins rationnel, je détruis souvenir à l'appel. Comment tu peux penser ça, qu'on a fait le bon choix, que t'as fait le tour de l'amour avec moi. Dans la ville comme un miroir, couteau sort du tiroir. Tempête dans la foule, nourrit mon âme toute noire. C'est bel et bien toi qui l'avais dit, à cœur ouvert ce qu'on s'était promis. Sans notice je me retrouve seule au bloc de chirurgie. Je recouvre ma peine avec mes rêves et tu te billes. J'ai passé l'été à vouloir te rendre fière. Je suis dans les trains, je rentre dans mes terres. Si je pouvais revenir en arrière, j'irais tout effacer, mettre fin à cette guerre. Est-ce que j'ai mérité ton silence, la peine, celle que j'ai portée dans Je t'ai cherché dans des âmes qui te ressemblent.
tu peux penser ça? Hey, comment tu peux penser ça?
Vous venez d'écouter Cœur ouvert de Jeanne et les autres et Adaviti. Jeanne et les autres qu'on pourra recevoir, comme on l'avait dit tout à l'heure, mercredi dans l'émission. Voilà, donc on pourra lui parler de cette EP un petit peu avec elle. Mais là, on va enchaîner avec une nouvelle chronique des étudiants. Je laisse Juliette donner le thème, mais ils le représenteront eux-mêmes tout aussi bien.
Bah, il me semble que c'est sur le financement.
Et bah, c'est parti.
Nous allons parler maintenant du budget de l'étudiant. Regardons ensemble quel rôle peuvent avoir les parents dans le financement de vos études.
Oui, parlons de la pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est une somme d'argent qui va vous être versée régulièrement pour subvenir à vos besoins. Il n'y a pas besoin de faire des démarches. Par contre, vos parents peuvent déduire la pension alimentaire qui vous est versée de leur déclaration d'impôt si vous faites votre propre déclaration.
Et c'est à vos parents de regarder si cela est plus intéressant de vous garder dans le foyer fiscal ou de déduire de leurs impôts la pension alimentaire. Auquel cas, vous serez détaché du foyer fiscal. Nous vous précisons qu'il n'est pas nécessaire que vous résidiez encore chez vos parents. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a parfois des cas où vous devrez obligatoirement indiquer comme revenu la pension alimentaire versée par vos parents.
Nous vous parlons de déclaration d'impôt depuis quelques minutes, ce qui signifie que vous pouvez recevoir une pension alimentaire même majeure. Effectivement, il n'y a pas d'âge limite pour la pension alimentaire. Si vous êtes majeur et que vous poursuivez des études, que vous n'avez pas d'emploi stable, rémunéré, alors vous pouvez bénéficier d'une telle pension.
Pour préciser, cela veut dire qu'un étudiant en alternance reste un étudiant. Et le parent qui vous verse habituellement la pension doit continuer de le faire. C'est la même chose pour un étudiant en apprentissage, qui peut continuer à recevoir une pension alimentaire dès lors que son salaire est inférieur au SMIC, soit à peu près 1400 euros par mois. Si vous touchez plus, le parent pourra demander l'arrêt des versements, sauf dans le cas où vous vous trouvez au-dessus du SMIC. La pension paraît encore nécessaire, par exemple lors d'études coûteuses.
Sachez que la pension alimentaire est quand même conditionnée à votre comportement. Si vous arrêtez souvent les cours, que vous échouez plusieurs fois vos examens, alors les versements pourront être stoppés.
Une autre manière d'augmenter son budget, en plus de la pension alimentaire, c'est d'avoir un prêt étudiant. On a d'ailleurs eu des questions de la part de certains étudiants à ce sujet. La question était la suivante. Quelles sont les démarches pour obtenir un prêt étudiant? Et je vais laisser la parole à Camille pour commencer à répondre à la question.
Merci. Alors déjà, un prêt étudiant permet de couvrir les frais de scolarité ou encore les dépenses de la vie quotidienne. Pour obtenir ce type de prêt, l'étudiant doit prendre contact avec les banques afin de voir les conditions, les intérêts, bref, tout ce qu'il faut savoir afin de choisir le meilleur prêt étudiant pour vous. Il est conseillé de prendre contact avec plusieurs banques afin de comparer les prêts proposés.
Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de prêts étudiants. Parmi eux, il y a le prêt étudiant garanti par l'État. L'avantage de ce prêt, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une caution. En gros, la banque ne va pas vous demander de désigner une autre personne qui pourrait rembourser le prêt à votre place si jamais vous ne pouvez plus le faire au bout d'un certain temps. Pour bénéficier de ce prêt garanti par l'État, des conditions sont à réunir. Il faut être inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur en France, avoir entre 18 et 28 ans et être de nationalité française ou européenne si vous résidez depuis au moins 5 ans en France.
C'est plutôt évident, mais il faut pouvoir rembourser ce prêt, donc il est nécessaire de vérifier, de calculer si vous serez en capacité d'effectuer le remboursement. Vous avez bien évidemment un délai pour ça, mais vous êtes tout de même limité. Les délais peuvent varier en fonction de ce que vous avez déterminé au préalable avec la banque. De toute manière, si la banque pense que vous ne pourrez pas rembourser, elle pourra refuser d'accorder le prêt. Vous pouvez solliciter Société Générale, Banque Populaire, Banque Postale ou encore Crédit Mutuel, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole.
Vous pouvez obtenir avec ce prêt jusqu'à 20 000 euros. Le taux d'intérêt variera selon la banque. Encore une fois, le mieux est d'appeler votre banque pour obtenir des informations directement. Vous pouvez aussi ne pas contacter votre banque habituelle et en démarcher plusieurs. On l'a rapidement évoqué, mais c'est la même chose pour la durée qui va être fixée par la banque. Même si le délai est fixé préalablement, il y a une durée minimale que la banque doit respecter. C'est une durée de 2 ans. Vous pouvez opter pour un remboursement immédiat au cours de vos études ou alors différer. Dans ce cas, vous rembourserez quand vous serez dans la vie active.
Il y a d'autres prêts avantageux pour les étudiants, notamment sur le taux d'intérêt qui pourra être inférieur, voire vous ne paierez pas du tout d'intérêt. C'est ce que l'on appelle le prêt à taux zéro. Cela nécessite un peu de recherche et surtout de savoir quels sont les avantages que vous recherchez. Est-ce ne pas avoir de caution, payer moins ou pas du tout d'intérêt, etc.
Nous avons également été sollicités par certains sur les aides alimentaires dont peuvent bénéficier les étudiants. Sachez d'abord que si vous êtes étudiant boursier ou non boursier en situation de précarité, vous pouvez bénéficier des repas à 1 euro dans les restaurants universitaires gérés par le CROUS. Il existe aussi les épiceries solidaires ou les distributions gratuites de nourriture pour ceux qui se trouvent en situation de précarité. Peut-être que Finatou, tu pourrais nous éclairer ?
Oui, bien sûr. Ces épiceries proposent de la nourriture et parfois des produits d'hygiène et d'entretien à un prix assez abordable. Si vous voulez savoir où elles se trouvent, rendez-vous sur le site de la métropole de Tours. Si vous voulez trouver un colis alimentaire gratuit, il faudra vous rendre dans un centre de la Croix-Rouge ou au centre communal d'action sociale de Tours. Le centre communal pourra également vous donner des chèques alimentaires.
Peut-être que l'on peut ajouter qu'il existe les centres des Restos du Cœur qui proposent des paniers alimentaires. Pour en bénéficier, il faut vous inscrire à l'avance auprès du centre de distribution le plus proche de chez vous.
Merci pour ces précisions, Sinatou et Jérémy. Je pense que l'on peut à présent s'intéresser à la question de la gestion du budget, question cruciale quand on est étudiant.
Nous avons été aussi sollicités à propos de la gestion du budget. Concrètement, un étudiant peut-il demander notamment le RSA ? Effectivement, peut-être que certains se posent la question de la possibilité pour un étudiant de demander le RSA. Sachez que cela n'est pas possible, sauf si vous avez exercé une activité professionnelle pendant au moins 2 ans, à temps plein, au cours des 3 dernières années. Autre cas dans lequel le RSA peut être accordé, c'est l'hypothèse dans laquelle vous êtes étudiant et parent isolé.
Dans la même thématique, j'ai vu que certains avaient vu augmenter leur facture téléphone. L'opérateur a-t-il le droit de le faire ?
Oui, malheureusement pour nous clients, l'opérateur est libre d'augmenter le tarif du forfait mobile à sa guise. Sa seule contrainte, c'est de vous prévenir par email au moins 1 mois à l'avance. En cas d'augmentation unilatérale du forfait, la résiliation du contrat sans frais est possible pendant 4 mois à compter du jour où vous avez connaissance de l'augmentation. Pour faire simple, si vous avez un forfait téléphonique auprès de SFR par exemple, et qu'SFR veut augmenter ses prix, il faut que SFR vous prévienne 1 mois avant. Et ensuite, vous avez un délai de 4 mois pour mettre un terme au contrat si vous voulez.
Et pour rebondir sur les questions relatives aux factures, on a celle relative à l'augmentation du prix de la facture d'électricité. Sachez que le chèque énergie constitue la principale aide de paiement des factures d'électricité. L'envoi de ce chèque énergie est automatique. Si vous respectez les critères d'éligibilité, vous n'avez donc aucune démarche particulière à effectuer pour en bénéficier. Il existe aussi le Fonds de solidarité pour le logement, qui est une aide proposée par les départements et dont EDF est le premier contributeur privé. Cette aide pour payer la facture d'électricité ou de gaz EDF est attribuée sous condition de ressources et est cumulable avec le chèque énergie. Après l'émission de la facture, il y a un délai de 14 jours pour la payer. Au-delà, le fournisseur mettra en place une procédure pour récupérer son manque à gagner. Dans tous les cas, vous pouvez demander à votre fournisseur de payer en plusieurs fois la facture d'électricité.
Et c'est la fin de cette deuxième chronique présentée par les étudiants de la fac de droit de Tours. Bastien, on suit une nouvelle pause musicale.
Prochaine pause musicale, c'est parti. C'est toi qui as proposé le son là, donc on va se mettre Pocketful of Sunshine avant d'arriver à la troisième chronique étudiante. Tout de suite dans Sortez, on écoute Pocketful of Sunshine de Natasha Bedingfield. Tout de suite.
J'avais envie de son qui donne la bonne humeur.
C'est parti, la bonne humeur, hein, avant de reprendre pour les petites chroniques. C'est parti.
Take me away, a secret place. Everybody knows where the rivers flow, and I call it home. And there's no more lies in the darkness is light, and nobody cries. There's only butterflies.
Vous venez d'entendre Pocket Full of Sunshine de Natasha Bedingfield, qui sont proposés par Juliette. Elle avait envie, on vous l'a dit juste avant, c'est le soleil, ça fait plaisir, ça fait bronzer les oreilles, comme toujours. On arrive à la troisième chronique étudiante, là, dans cette émission sortée, si je ne me trompe pas, Juliette, c'est ça, hein.
C'est exactement ça, les étudiants vont nous parler maintenant de l'emploi.
Alors, c'est parti, on vous met ça.
Après avoir parlé des finances, nous allons continuer avec un sujet qui intéresse beaucoup d'étudiants, l'emploi. Vous jonglez déjà entre les cours et un ou plusieurs jobs à temps partiel. Vous êtes simplement curieux d'en savoir plus sur le sujet. Vous êtes au bon endroit. Restez avec nous. On va répondre à vos questions que vous vous posez le plus souvent sur l'emploi étudiant.
Et parmi les questions qui reviennent le plus souvent, il y a celles concernant les droits des étudiants travailleurs.
Ça ne m'étonne pas du tout, Arthur. Quand on travaille pour financer ses études, c'est normal de se demander si on peut prétendre à certains droits, s'il y a des aménagements prévus à la fac. Et si c'est le cas, comment faire pour en bénéficier ?
Oui, exactement. Si c'est votre cas, déjà on va vous rassurer, quand vous êtes au travail, vous bénéficiez des mêmes avantages que vos collègues, qui sont aussi à temps partiel. En plus de ça, quand vous êtes à la fac, vous pouvez bénéficier d'un régime spécial d'études adapté à votre emploi. Il vous permettra notamment de sauter certains cours ou TD. Mais attention, à l'université de Tours, il faut respecter certaines conditions pour y être éligible. Moi je ne les connais pas trop, mais Jérémy, je crois qu'à un moment, tu voulais savoir comment faire pour avoir droit à ce régime. Tu peux nous rappeler quelles sont ces conditions ?
Bien sûr, Arthur. D'abord, il faut être un étudiant en formation initiale. Désolé pour ceux en formation continue ou en apprentissage. Ce régime n'est malheureusement pas pour vous. Ensuite, il y a des critères de temps à respecter. Il faut soit travailler pendant au moins 10 heures par semaine, 200 heures par semestre, 400 heures par année universitaire, soit avoir une fonction enseignante pendant l'année, pour un total de 160 heures.
Merci Arthur et Jérémy pour ces infos. Une autre question nous a été posée par une étudiante qui a un contrat de travail avec l'université. Elle nous explique qu'en ce moment, elle a un peu de mal à boucler les fins de mois. Elle envisage donc de postuler chez McDo, tout en continuant de travailler pour l'université. Sa question est la suivante. Est-ce que j'ai le droit de cumuler un emploi étudiant avec un employeur public et un autre emploi avec un employeur privé ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'elle pourrait intéresser les autres étudiants dans son cas. L'université recrute souvent des étudiants pour des petits CDD à temps partiel. C'est le cas des tuteurs de langue qui parlent avec nous au CRL pendant les cours d'anglais. Des étudiants qui travaillent à la BU, ou encore les ERS, les étudiants relais santé.
Je suis d'accord. Je me suis donc renseignée pour essayer de répondre au mieux à la question de l'étudiante. D'après mes recherches, c'est possible de cumuler un CDD à temps partiel dans le privé et un autre dans le public, mais seulement à condition d'en informer au préalable son employeur public et d'obtenir son autorisation. Cette autorisation est valable un an et est renouvelable une fois à compter du recrutement.
Autre info à avoir en tête, l'employeur public peut, à tout moment, s'opposer au cumul d'emploi s'il estime que c'est incompatible avec les missions de service public qu'il vous confie. Si vous ne respectez pas ces règles, que vous vous exposez au risque de devoir rembourser tout ce que vous avez gagné dans le cadre de votre job étudiant dans le privé via des retenues sur salaire. En gros, pour faire simple, attendez d'avoir l'autorisation de l'université avant de vous engager chez McDo ou ailleurs. Ce serait vraiment dommage de devoir rembourser vos salaires. Et si jamais vous avez cette autorisation, n'oubliez pas qu'elle peut vous être retirée si l'université considère que les tâches qu'elle vous donne ne peuvent pas être cumulées avec celles que vous devez accomplir dans le privé.
Merci Sinato et Arthur pour ces précisions. On espère que ça aide les étudiants qui sont dans cette situation. Quand on est étudiant, il y a un autre type de contrat de travail qu'on peut avoir, le contrat d'apprentissage. Il est un peu différent des jobs étudiants classiques dont on a parlé jusque-là. On va donc répondre à quelques questions sur ce contrat particulier. Camille, tu veux nous en parler? Alors à toi le micro.
Merci Jérémy. Avant d'aller plus loin, il faudrait déjà préciser ce qu'est un contrat. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui lie un étudiant, sa structure de formation et une entreprise. Il permet d'alterner entre des périodes de travail en entreprise et des périodes de formation dans un établissement d'enseignement, comme un centre de formation d'apprentis, c'est-à-dire un CFA, un lycée ou même une université. Le rythme d'alternance dépend de la formation choisie. Par exemple, nous, dans le master Justice, Procès, Procédure, Parcours, Conseil et Contentieux, on a un rythme de 2 semaines à la faculté et 2 semaines en entreprise.
Une question nous a été posée quant à la rémunération des apprentis. Dans notre master, on est presque tous en apprentissage. Même si ce n'est pas toujours facile de gérer l'alternance, l'apprentissage apporte quand même des avantages non négligeables, comme la rémunération, qui est plus importante que celle d'un job étudiant à temps partiel.
Exactement. Avec ce contrat, l'apprenti a une rémunération qui est basée soit sur un pourcentage du SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit un pourcentage du salaire minimum conventionnel pour l'emploi occupé. Ce pourcentage va évoluer selon l'âge et l'avancement de votre formation. Pour vous donner une idée du salaire que vous pourrez gagner, sachez que si vous êtes étudiant en Master 2, âgé de 22 ans et que vous travaillez dans une entreprise sans convention collective sur les salaires, votre salaire serait d'au moins 61% du SMIC, soit 1077 € à peu près. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà plus que ce qu'on peut avoir avec la plupart des jobs étudiants et ça aide à payer les factures et vos loisirs.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Camille. L'autre avantage de l'apprentissage, c'est le fait d'avoir droit à des congés qu'on pose avec l'accord de notre employeur. On nous a d'ailleurs posé une question là-dessus. En tant qu'apprenti, on a droit au même congé qu'un employé classique, à savoir le minimum légal de 5 semaines de congés payés par an. En plus, selon la structure dans laquelle on travaille, il peut y avoir une convention collective qui prévoit des congés payés supplémentaires. Il y a aussi des congés spécifiques, les congés pour événements familiaux pour assister au mariage, au PAX ou à l'enterrement d'un proche ou encore pour le congé paternité ou maternité.
Oui, et en plus de ces congés, quand on est apprenti, on peut exceptionnellement s'absenter du travail pour participer à la journée défense et citoyenneté, sans aucune perte de salaire.
Et bien sûr, on n'oublie pas les congés pour examen qui permettent de ne pas aller au travail pour réviser les examens. Il y a un total de 5 jours ouvrables qu'on peut poser avant une période d'examen. Ces jours sont rémunérés et ils peuvent être fractionnés. En gros, on peut poser 2 jours pendant le premier semestre pour réviser les examens du S1, et ensuite poser les 3 jours restants au cours du second semestre pour les épreuves du S2.
Et pendant que je vous écoutais, j'ai repensé à un message de ma mère. Elle me demandait de lui dire combien j'avais gagné l'année dernière pendant mon job d'été pour qu'elle sache quel montant déclarer aux impôts cette année. Promis, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. Je vous le dis parce que ça m'a fait penser au fait qu'on a eu des questions sur la déclaration de revenus. Puisqu'on n'y a pas encore répondu, je pense que c'est le moment de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon. Parler d'impôts, ça casse un peu l'ambiance, mais c'est vrai qu'il y a tellement de règles à respecter que c'est super important de savoir ce qu'il faut faire selon sa situation personnelle. En plus, je crois que cette année, le début de la campagne de déclaration est prévu aujourd'hui. Alors oui, c'est le moment idéal pour donner quelques explications sur les sommes à déclarer.
Oui, tout à fait. Avant toute chose, il faut savoir que les règles varient en fonction de l'origine des revenus que vous avez perçus pendant l'année d'imposition. Cette année, en 2024, l'année d'imposition à prendre en compte est 2023. En gros, ce sont vos revenus de 2023 que vous allez lister dans votre déclaration de 2024. Si comme moi, vos parents déclarent à la fois leurs revenus et les vôtres dans la même déclaration, ça sera à eux de suivre les quelques règles qu'on va vous indiquer.
Je pense que pour que ce soit plus facile à suivre, il faudrait que chacun de nous présente une situation, puis indique la règle attachée à cette situation.
Bonne idée. Je veux bien commencer avec le cas des stagiaires. À l'université, on est très nombreux à avoir fait des stages. Perso, j'ai jamais été payée en stage, mais je connais des gens qui ont été assez chanceux pour recevoir une gratification. À toutes les personnes concernées, sachez que vous devez déclarer l'argent que vous avez reçu aux impôts. Mais attention, vous n'avez pas besoin de tout déclarer parce qu'il existe un abattement maximal de 20 815 €. Autrement dit, Quand vous allez déclarer votre gratification, vous pourrez retirer 20 815 euros de la somme que vous avez perçue. Par exemple, vous avez perçu 5 000 euros, vous n'avez rien à déclarer aux impôts. Par contre, si vous avez perçu 20 830 euros, vous devez déduire 20 815 euros de ce montant, ce qui fait que vous n'aurez à déclarer que les 15 euros qui restent.
Il y a un peu la même logique pour certains étudiants salariés. Sachez que si au 1er janvier 2023, vous aviez moins de 26 ans, vous bénéficiez d'un abattement de 5 204 euros. Ça équivaut à 3 fois le montant mensuel du SMIC. Donc, sur votre déclaration d'impôt, il ne faudra déclarer que la partie des salaires qui dépasse 5 204 euros. Par exemple, pour 6 204 euros de salaire perçu, seuls 1 000 euros seront à déclarer.
J'en profite pour dire que ce même abattement s'applique si vous étiez en contrat d'apprentissage en 2023. Mais attention, si vous étiez en contrat de professionnalisation, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas éligible à une exonération partielle. Il faudra que vous déclariez tous vos salaires.
On peut finir avec la situation des étudiants boursiers. Si vous avez une bourse sur critères sociaux qui vous est versée par le CROUS, bonne nouvelle, vous n'avez rien à déclarer aux impôts. En revanche, si votre bourse est destinée à financer des travaux ou des recherches déterminées, vous devrez la déclarer. Le plus souvent, cette bourse concerne des étudiants qui font des recherches universitaires après leur master.
Et c'est la fin de cette troisième chronique. On peut se faire une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que tu as en stock, Bastien ?
La petite dernière pause musicale. Après, on enchaînera avec à l'agenda du week-end avant pour la... après la quatrième chronique. On va se mettre un petit Calucci, Tyler the Creator,
ça
After the
cool,
Storm.
Ça.
Donc, on finit en beauté.
Incroyable.
On vous met ça et puis on enchaînera avec la chronique After the Storm de Calucci tout de suite.
Eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind.
After the Storm de Calucci et Tyler the Creator dans Sortez, c'est le 99.5, toujours Radio Campus Tour. Vous êtes avec vos deux services civiques préférés, Bastien et Juliette. On a fini avec un morceau très très cool là, et puis il nous reste une toute petite dernière chronique des étudiants de droit qui ont maîtrisé leur sujet de bout en bout, vraiment, quand ils sont venus enregistrer. Juliette, c'était quoi le dernier sujet de leur chronique?
Alors le dernier sujet, c'est sur le harcèlement. Donc on s'écoute ça tout de suite.
C'est parti.
Pour finir, on trouvait ça assez important de parler du harcèlement et notamment quelles procédures vous pouviez mener en cas de harcèlement.
Je pense qu'une définition bien scolaire permettrait de rappeler ce qu'on entend par harcèlement. Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique et ou psychologique. Par exemple des menaces, des taquineries, des grimaces, des gestes obscènes. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement et il peut prendre plusieurs formes là encore. La propagation de rumeurs, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe. Ou la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Ou par exemple le sexting non consenti.
Effectivement Arthur, t'as tout à fait raison. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes, mais il peut aussi émaner de plusieurs types de personnes, car quiconque peut être harceleur. Il peut s'agir d'un enseignant, d'un camarade, d'un collègue ou même d'un supérieur hiérarchique. Je pense donc qu'il faut expliquer à nos auditeurs qui peuvent peut-être un jour être victimes ou témoins de harcèlement les différentes démarches à effectuer. Je laisse donc Sinatou et Camille nous éclairer sur le harcèlement au travail.
En matière de harcèlement au travail, il faut distinguer deux domaines, le secteur public et le secteur privé. Je vais commencer par le secteur privé. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs types de recours qui existent pour se défendre contre le harcèlement. Vous pouvez alerter le comité social économique, c'est le CSE, et les représentants du personnel, mais vous pouvez aussi alerter l'inspection du travail. Si au contraire vous travaillez plutôt dans le secteur public, il existe un dispositif de signalement confidentiel qui prévoit des procédures spécifiques. Mais il est toujours possible d'alerter le comité social et les représentants du personnel également.
Si vous constatez que l'employeur ne réagit pas face au harcèlement d'un collègue ou que c'est lui qui est à l'origine du harcèlement, vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir réparation du préjudice subi. Si vous êtes dans le secteur privé, il faudra saisir le conseil des prud'hommes. Si vous êtes dans le secteur public, il faudra saisir le tribunal administratif. Vous avez aussi la possibilité de déposer plainte au commissariat. Ces deux procédures peuvent être complémentaires, vous n'avez pas de choix à faire.
À noter que pour les étudiants en apprentissage, il est également conseillé d'alerter le CFA responsable de la formation. Et justement, en parlant d'université, Arthur, tu pourrais nous expliquer les démarches à suivre en cas de harcèlement à la fac ?
Bien sûr, Jérémy. Dans le cadre scolaire, vous avez, comme dans les autres cas, la possibilité de déposer une plainte écrite auprès du président de votre université. Une commission ad hoc sera alors chargée d'enquêter sur les faits allégués et de rédiger un rapport d'enquête. Le président prendra ensuite une décision quant à la suite à donner. S'agissant de l'accompagnement, l'étudiant peut s'adresser au service de santé universitaire, le SSU, qui pourra l'accompagner à travers des consultations avec une assistante sociale, un médecin ou un infirmier.
De toute façon, peu importe la situation de harcèlement rencontrée, il faut se rendre dans un commissariat pour déposer plainte dans un délai maximum de 6 ans à compter du fait le plus récent de harcèlement. Ce délai s'applique pour n'importe quelle plainte déposée pour harcèlement et quel que soit le lieu de commission des faits, que ce soit au travail, à la fac ou dans la vie quotidienne. Et surtout, n'hésitez pas à en parler si jamais vous êtes victime ou témoin de ce genre de faits.
Et c'est désormais la fin de cette émission. On remercie chaleureusement l'émission Sortez de Radio Campus pour nous avoir accueillis dans ses locaux. Je remercie également mes quatre partenaires, Sinatou, Camille et Arthur. Et on espère avoir pu éclairer les étudiants sur leurs questions liées à l'université. Merci.
Et c'est la fin de cette dernière chronique. On remercie les étudiants de la fac de droit de Tours de nous les avoir présentés.
Et du coup, vous pouvez retrouver ces chroniques sur notre site internet radiocampustour.com. Comme toujours, il y aura sûrement une rediff de mise de ces chroniques et de cette émission avec les petits morceaux qu'on vous a mis. Il va nous rester quoi, l'agenda du week-end encore ?
Exactement.
Tu veux nous faire les réseaux sociaux avant, en partant, et on boucle par ça, Juliette ?
Eh bien, je ferai ça après l'agenda.
Eh bien, alors vas-y, je t'en prie. Eh bien, écoutez, l'agenda du week-end, c'est maintenant, c'est Juliette.
On commence le week-end, le vendredi 19 avril à 18h au Petit Faucheux. Il y a un enregistrement en direct de l'émission Open de Jazz présenté par Alex Dutille. Ensuite, à 19h30, au Temps Machine, il y a Belle Witch, Jade et Dionysiaque. Pour y aller, c'est très simple. Il vous suffit de prendre le tram et de descendre à Jouer Hôtel de Ville. Allez les Tourangeaux, ne soyez pas feignants. Le tram, c'est rapide. Et sinon, vous avez aussi la possibilité d'aller au Bateau Ivre à 19h30 pour aller voir Warren ainsi que d'autres artistes, tarifs entre 13 et 18 euros. On poursuit le week-end, le samedi 20 avril. Il y a C'est l'atelier de Hera Bouyuktasiyan. C'est pour jeune public de 15h15 à 16h15 au CCCOD. À 15h15, il y a Daniel dans la nuit et la Calamars Party par la Scie la Rotule au Temps Machine. Et on clôture la journée du samedi au Bateau Ivre à 20h avec Noche Flamenco, la Cecilia y su gente, invité Lucas el Luco. Un magnifique accent espagnol. Ensuite, on finit le week-end le dimanche 21 avril. À 15h, vous pouvez vous rendre à Notre-Dame-d'Oé et écouter le concert solidaire au programme Didier Buisson, Baptiste Dupré, le groupe Et les Bords, le groupe Unlock, le duo Mathieu Roger et Lucille Vermeulen, Delphine Meillant. Et pour rappel, les bénéfices seront intégralement reversés à une association de lutte pour les droits des femmes. Donc vous pouvez écouter de la bonne musique tout en faisant une bonne action. Tarif entre 8 et 13 euros et c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Et si vous n'êtes pas branché musique, mais plutôt sport et rugby, à 15h, il y a aussi Tours versus le stade Poitevin au stade Tonnelé. Tarif entre 4 et 8 euros. Et enfin, on finit le week-end au CCCOD à 16h30 avec la visite commentée de l'exposition « Défendre les eaux ancestrales » de Hera Bouyuktasiyan.
Encore un très beau programme ce week-end, il faut aller en profiter.
Exactement.
C'était le petit agenda du week-end, voilà.
Et puis, avec ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sortez 99.5 FM sur Instagram et TikTok, ça change pas.
Le podcast est toujours disponible demain matin, et puis 16h, on se retrouve avec qui demain à 16h, Juliette ?
On reçoit GLAAD, c'est le lauréat des Inouïs représentant du Centre Val-de-Loire.
Le seul.
Accompagné de Marilyn du Temps Machine.
La programmatrice. Faut préciser.
Voilà, la
prochaine. Donc on pourra reparler de tout ça demain du Printemps de Bourges. Vous savez qu'on y sera dès la semaine prochaine. Et puis, c'est la fin de cette petite émission. On va se laisser en musique. Il m'en reste une en stock. On va se mettre Cordero, des Nanas, des Mathéus et d'Adino. Sortez.
Soji nana, soji nana, soji nana, soji nana, soji nana, soji nana, soji nana. Soji nana, soji nana, soji nana, soji nana, soji nana, soji nana, soji nana. Thank you.